C'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. L'issue de l'élection présidentielle américaine est toujours suspendue ce midi à quelques états clés où le décompte des voix est toujours en cours. C'est le cas notamment en Géorgie où Joe Biden dispose désormais d'une avance de 917 voix. Alors cet écart est encore beaucoup trop faible, sans compter que plusieurs milliers de bulletins doivent encore être comptabilisés pour permettre de connaître enfin le nom du nouveau président, même si Joe Biden semble bien inexorablement se rapprocher de la Maison-Blanche. Alors que l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'explosion des nouvelles contaminations en Europe, le vieux continent tente par tous les moyens de contenir la deuxième vague de Covid-19. Nous irons notamment en Angleterre. En France, confronté à une grogne du monde enseignant et de certains lycéens face aux mesures jugées insuffisantes pour éviter la propagation de l'épidémie, les lycées vont être autorisés à effectuer une partie de leur enseignement à distance et les épreuves du baccalauréat vont être adaptées. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Pierre Mathiot, politologue, directeur de l'Institut d'études politiques de Lille, principal concepteur de cette réforme du lycée et du bac entrée en vigueur en septembre dernier. Enfin, à grand renfort de voyages diplomatiques sur fond de renforcement des frontières et autres placements en rétention, la France multiplie les initiatives pour éloigner de son territoire les immigrés clandestins radicalisés et tenter de contrer la menace terroriste. Quand connaîtra-t-on enfin le nom du 46e président des États-Unis? Plus de 48 heures après la soirée électorale, le suspense demeure entier. Et d'ailleurs, cette attente semble être devenue tellement insupportable pour Donald Trump que le président s'est posé hier et sans la moindre preuve en victime d'une vaste fraude électorale, tout en réaffirmant avoir remporté le scrutin. Or, fait rare face aux assertions mensongères du candidat républicain qui s'exprimait depuis la salle de presse de la Maison-Blanche, plusieurs chaînes de télévision qui ne souhaitaient pas se rendre complices de désinformation ont même renoncé à diffuser la totalité de son intervention. Bref, une situation de plus en plus ubuesque, quoi qu'il en soit, et en dépit donc des efforts de Donald Trump d'instiller des doutes et de prolonger les incertitudes, les résultats semblent de plus en plus favorables à son adversaire Joe Biden, et notamment Loïc Loury en Géorgie.
Les courbes viennent tout juste de se croiser en Géorgie. Joe Biden prend la tête dans cet état du Sud à quelques centaines de voix près. Alors ce n'est pas une surprise. La fin de ce dépouillement, on le sait, est favorable aux démocrates grâce à la prise en compte plus tardive du vote urbain, du vote par correspondance que Donald Trump a transformé en repoussoir pour ses propres électeurs. Cela signifie, en gros, que cet avantage pris par Joe Biden ne fera qu'augmenter. Le candidat disait hier, en gros, patience, nous n'avons pas gagné, mais la victoire nous tend les bras. En clair, tout cela peut encore prendre du temps, notamment en raison de l'écart minime qui sépare les deux candidats. Il y aura très vraisemblablement un recompte en Géorgie, mais aussi peut-être en Pennsylvanie, qui avec ses 20 grands électeurs peut donner une victoire définitive à Joe Biden. Là aussi, les courbes devraient se croiser aujourd'hui. En résumé, victoire à portée de main pour le candidat démocrate, mais la dernière marche, on est en train de le constater, est la plus longue à franchir.
Voilà, l'interminable dépouillement se poursuit donc en Géorgie, mais aussi dans l'Arizona, le Nevada, la Caroline du Nord et Loïc Loury le disait à l'instant, en Pennsylvanie. Là-bas, la gouverneure de l'État indique que les résultats définitifs devraient être dévoilés aujourd'hui. En attendant, les militants des deux candidats se sont eux retrouvés hier à Philadelphie, les uns pour dénoncer donc des fraudes et les autres pour demander que chaque vote soit compté. C'est un reportage signé de notre envoyé spécial Farid Anwar.
Sous les fenêtres du Convention Center, pendant que les agents dépouillent les bulletins de vote, pro-Biden et pro-Trump se font face, avantage aux démocrates plus nombreux avec leur sono à fond. Les républicains en face peinent à se faire entendre. Sam veut donner de la voix, convaincu comme Donald Trump de fraude massive.
On compte chaque vote, oui, mais chaque vote légal seulement. On ne perd pas notre temps avec les bulletins qui sont arrivés un jour après la date de l'élection. C'est une foutue élection, la chose la plus importante dans ce pays. C'est ce qui va se passer dans les 4 prochaines années. Et vous savez quoi? Les démocrates ont raison. Donald Trump n'est pas quelqu'un d'attachant, mais comment les Américains peuvent décider que ta personnalité détermine si ta politique est bonne ou pas? Je ne comprends pas pourquoi l'Amérique s'apprête à voter pour quelqu'un qui n'a pas d'idée. Je ne comprends pas pourquoi l'Amérique s'apprête à voter pour quelqu'un d'aussi corrompu que Joe Biden. Et je vois tous mes amis noirs, toute ma famille, ils ont tous voté pour Biden parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils votent pour la mauvaise personne.
Donald Trump a une nouvelle fois pris la parole hier. On ne peut pas laisser la Pennsylvanie décider du résultat de la présidentielle. Israël, a-t-il dit. Pour Andrew, militant démocrate, le président sortant devient de plus en plus ridicule.
C'est drôle parce que ça n'est pas lui qui décide. La Pennsylvanie peut décider qui sera le prochain président, que ça lui plaise ou non, donc il doit s'y faire. Les gens sont là à chanter, compter chaque vote, c'est ce que les gens veulent et c'est ce qui doit être fait. Évidemment, ce qui se passe en ce moment est angoissant et plus ça dure, plus ça l'est. Qui sait ce qui va se passer ?
Et effectivement, ça dure. Andrea aimerait enfin que le dépouillement se termine, elle n'en peut plus d'attendre.
Oui, c'est difficile parce qu'on veut se débarrasser de Trump et enfin retrouver de la paix, du calme, du silence. Je n'aurais jamais cru vivre quelque chose comme ça dans ma vie, donc j'ai décidé que je ne pouvais pas rester silencieuse et que je devais être dans la rue et faire quelque chose.
La Pennsylvanie pourrait peut-être bientôt mettre fin au suspense et offrir aux États-Unis le nom de leur nouveau président.
Voilà un reportage à Philadelphie signé Farida Noir. Alors on l'a dit, le temps nécessaire au décompte des millions de bulletins transmis par correspondance vient à lui seul rappeler l'impact de la crise sanitaire. Voilà deux semaines que l'épidémie flambe aux États-Unis, de loin le pays aujourd'hui le plus endeuillé au monde. Hier, un nouveau record de plus de 120 000 cas de contamination en 24 heures a été enregistré. Pendant ce temps, et là aussi, face à une explosion des cas de Covid-19 en Europe, plusieurs pays n'ont d'autre choix à présent que de mettre en œuvre des restrictions supplémentaires, c'est le cas de l'Italie qui à partir de ce soir s'imposera un couvre-feu, de même qu'un reconfinement dans plusieurs de ses régions. De son côté, la Grèce se reconfinera, elle, à partir de demain et pour 3 semaines. Au Royaume-Uni, cette fois-ci pays le plus endeuillé d'Europe par le virus, l'heure du reconfinement a déjà sonné hier pour l'Angleterre et ses 56 millions d'habitants. Un lockdown prévu pour durer au moins jusqu'au 2 décembre. Alors là-bas, la ville de Liverpool y est actuellement l'une des plus touchées par la pandémie et c'est ainsi que le gouvernement a décidé de lancer à partir d'aujourd'hui des tests massifs pour tous ceux qui y vivent ou y travaillent, soit près d'un demi-million de personnes. Reportage sur place signé de notre correspondant Richard Place.
L'armée a même été mobilisée pour cette campagne. 2000 soldats vont sillonner la ville à partir d'aujourd'hui et ils vont proposer à tout le monde de se faire tester, symptômes ou pas, peu importe. Différents types de tests seront utilisés, notamment un nouveau système qui permet d'obtenir un résultat en une heure sans passer par un laboratoire. L'expérience n'est pas obligatoire, mais vivement conseillée. Les volontaires pourront se rendre dans les centres existants, mais aussi dans plusieurs nouvelles structures, des écoles, des lieux de travail, des universités. Les résultats leur seront communiqués au plus vite, par mail ou par SMS. Les positifs devront s'isoler chez eux et tous leurs contacts récents seront prévenus afin de suivre la même recommandation. Les négatifs seront invités à poursuivre le confinement. Le choix de Liverpool n'est pas innocent politiquement, c'est l'un des endroits où la contestation était la plus vive, la semaine dernière encore, lorsque tout le pays n'était pas logé à la même enseigne en matière de restrictions. Si l'efficacité de cette mesure est prouvée, le gouvernement espère pouvoir la généraliser progressivement.
Alors que la France a enregistré près de 60 000 nouveaux cas sur les dernières 24 heures, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a averti hier que la deuxième vague pourrait être pire et plus longue que la première, sans pour autant annoncer de durcissement du reconfinement au niveau national. En revanche, les autorités ont décidé de durcir les règles dans la capitale, sans aller jusqu'à un couvre-feu, comme l'avait maladroitement évoqué en début de semaine le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. L'État a décidé, en plus de la fermeture des bars et restaurants, l'interdiction de la vente de produits alimentaires après 22 heures, de même que la consommation publique d'alcool durant la nuit. Alors avec ces nouvelles règles, le gouvernement espère ralentir la deuxième vague particulièrement meurtrière dans la région parisienne, mais parce qu'au-delà, la France tout entière est aujourd'hui le pays d'Europe qui compte le plus de cas, 1 600 000 personnes infectées. Le ministre de l'Éducation a lui annoncé hier un renforcement du protocole sanitaire au lycée, avec tout d'abord un retour des cours à distance, à la condition toutefois de conserver au moins 50% d'enseignement en présentiel pour chaque élève. Et puis, Jean-Michel Blanquer a également prévu d'annuler les épreuves de contrôle continu prévues dans le cadre du bac nouvelle formule. Sarah Ders, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors sur le plan sanitaire, peut-être tout d'abord Sarah, chaque lycée pourra désormais avoir son organisation propre pour limiter le brassage d'élèves.
Exactement. Donc chaque établissement peut mettre en place un accueil en demi-groupe, un accueil par niveau ou le travail à distance, 1 ou 2 jours par semaine, à condition donc de garantir au moins 50%, vous le disiez, de présence en classe pour chaque élève, et ça jusqu'à décembre au moins. un décalage inquiétant avec la réalité et un manque de préparation et surtout un renforcement tardif, dénonce le syndicat des lycéens fidèles qui réclame depuis des mois des moyens financiers et humains pour éviter la surcharge des classes, les professeurs absents non remplacés et permettre donc un protocole sanitaire mieux ficelé. Travailler en autonomie la moitié de l'année ou des cours en visioconférence, précise l'un de ses représentants, Grégory Abelli, ne remplace pas un apprentissage en classe et favorise donc le décrochage scolaire. Et pour éviter de creuser donc ces inégalités sociales, Valérie Pécresse, qui s'exprimait ce matin en conférence de presse, donc présidente de la région Île-de-France, où la situation, vous l'avez dit, sanitaire est très préoccupante, promet 3,5 millions d'euros supplémentaires pour la mise en place de ce protocole. Protocole sanitaire donc sur mesure. Ce protocole, donc ces mesures, comprend notamment des mesures concrètes pour le développement par exemple du numérique dans les écoles, l'achat par la région par exemple de 5000 micros sans fil, de webcams pour équiper les postes fixes des professeurs et 2500 clés 4G pour pallier le manque de Wi-Fi en classe. En plus, la région demande au ministère de l'Éducation que tous les profs doivent être remplacés sans délai, au même titre que la région s'engage, elle, à remplacer les agents dans les écoles, dans tous les lycées. Donc toute la difficulté réside donc entre concilier continuité pédagogique, Thomas, et respect strict du protocole sanitaire.
Merci Sarah Ders. Je précise qu'en dépit de ce nouveau protocole renforcé, l'intersyndicale a elle maintenu son appel à la grève sanitaire pour le 10 novembre prochain dans le premier et le second degré. Et pour continuer d'analyser ces annonces du ministère, invité de la rédaction aujourd'hui, Pierre Mathiot, politologue, directeur de l'Institut d'études politiques de Lille et principal concepteur de cette réforme du lycée et du bac entrée en vigueur en septembre dernier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Thomas Larabi. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Première question, monsieur Mathiot, les réponses apportées hier par Jean-Michel Blanquer vous semblent-elles satisfaisantes? Le ministre parle notamment de contrôle continu, mais tout en maintenant certaines épreuves de spécialité au mois de mars, c'est-à-dire relativement vite, peut-être même trop vite. N'aurait-il pas mieux fallu les reporter, par exemple, au mois de juin?
Alors d'abord, ces annonces, c'est le résultat d'un travail qu'on a mené dans le cadre du comité de suivi que je copilote avec Jean-Charles Ringard. Alors d'abord, sur les épreuves, ce qu'on appelait les épreuves communes, donc effectivement les épreuves de contrôle continu, il nous semble que ça permet d'alléger ce qu'on appelle la charge évaluative dans les établissements, et donc c'est quelque chose qui va permettre aux élèves et aux profs et aux personnels de direction d'abaisser un petit peu leur niveau de stress par rapport à tout cela. S'agissant des enseignements de spécialité, alors je rappelle qu'ils sont prévus qu'ils se passent au mois de mars parce que les deux doivent compter dans le cadre du baccalauréat et doivent être a priori remontés dans l'application Parcoursup au mois d'avril. Donc en l'état actuel des choses, évidemment, ces épreuves sont maintenues. Bien évidemment, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que la situation sanitaire amènera le ministre très probablement à regarder plus précisément cela, sans doute au début de l'année 2021, hein, pour s'adapter bien sûr à la situation sanitaire, que des consignes vont être données prochainement à l'ensemble des professeurs s'agissant des sujets, des programmes et des attentes qu'ils devront avoir par rapport aux travaux des élèves, puisqu'évidemment les élèves qui vont passer ces épreuves sont des élèves qui n'ont pas vraiment eu des conditions d'études satisfaisantes entre mars et juin dernier. Depuis la rentrée, c'est un petit peu compliqué. Les choses vont évidemment continuer à être compliquées puisque la demi-jauge dans les établissements va faire que les élèves vont progresser moins rapidement que prévu, bien sûr. Donc tout ça est pris en compte, bien sûr, sous la réserve de cette situation sanitaire qui peut probablement amener le ministre à revoir encore ses plans si d'aventure les choses ne s'améliorent pas.
Question de Thomas Larabi.
Monsieur Mathiot, autre rupture d'égalité potentielle qui est déjà pointée du doigt par des syndicats. Donc avec la réforme du bac, 40% du contrôle se fait désormais en contrôle continu. Ça devait être assuré par les épreuves communes qui sont donc annulées. À la place, il y a un réel contrôle continu avec les notes des élèves tout au long de l'année qui vont être comptabilisées. Alors avec ce contrôle continu plus la liberté laissée aux chefs d'établissement pour organiser le protocole sanitaire, donc en demi-groupe, une semaine sur deux, etc. Est-ce qu'on se dirige pas tout simplement vers un véritable bac local cette année?
Alors les 40% de contrôle continu, tout, dans les 40%, ce n'est pas que les épreuves communes. Il y a aussi les bulletins, il ne faut pas l'oublier. Bah, écoutez, l'année dernière, enfin, en 2020, on a été amené à passer en contrôle continu la quasi-entièreté du bac du fait de la situation sanitaire. Cette année, la situation sanitaire, il ne vous a pas échappé qu'elle est au moins aussi dégradée qu'entre mars et juin dernier. Donc, nécessité fait force, en l'occurrence, et on a là une première décision qui essaye de tenir compte de la situation sanitaire. Dans un monde idéal, à la réforme telle qu'on l'a conçue, prévoit qu'il y ait des épreuves communes, hein, donc des points d'étape auxquels les élèves passent. Là, on a considéré qu'il fallait que ces épreuves communes pour cette année soient remplacées par le contrôle continu, c'est-à-dire par les notes obtenues en classe, parce qu'il y a une situation exceptionnelle. Mais bien évidemment, à partir de 2022, l'objectif est d'en revenir à ces épreuves communes si d'aventure la situation sanitaire s'est stabilisée.
D'accord. Et vous disiez tout à l'heure, il pourrait y avoir d'autres ajustements en fonction de la situation sanitaire, que ce soit les syndicats étudiants comme les syndicats enseignants. Ils appellent souvent à un programme allégé cette année, puisque les premières de l'an dernier sont en plus les terminales d'aujourd'hui. Est-ce que c'est possible, ça, un allègement des programmes ?
Alors, des consignes vont être données dans les jours qui viennent aux professeurs s'agissant de ce qui sera attendu des élèves lors de ces épreuves de spécialité, si elles ont bien lieu comme prévu, d'accord ? Donc, évidemment, ça va dans le sens que vous dites, c'est-à-dire d'une clarification des attentes. Alors, par rapport au programme, le problème, c'est que les professeurs, depuis le début de l'année, n'ont pas tous abordé les programmes de la même manière, puisqu'on est dans un principe de liberté pédagogique des professeurs. Donc, si là, maintenant, on disait aux professeurs tel ou tel point de vos programmes, vous ne devez pas les traiter, et que les professeurs les aient déjà traités dans le cadre de leur liberté pédagogique, on aurait là aussi des protestations. Donc, on préfère donner des consignes de mensuétude, de recadrage des attentes lors de ces épreuves. Ça nous paraît plus intéressant de faire comme cela. Et puis, j'en profite pour dire, par rapport aux revendications de reporter dès à présent les enseignements de spécialité en juin, il ne faut pas oublier que si on faisait cela, ça surchargerait le mois de juin en épreuve d'évaluation, alors même qu'on ne sait pas du tout ce que sera la situation sanitaire, encore malheureusement, au mois de juin prochain.
Alors Valérie Pécresse l'évoquait ce matin, on observe, alors pour le moment c'est par le témoignage, on n'a pas spécialement de chiffres, mais des absences chez les professeurs, des absences qui pourraient s'accentuer avec les potentielles contaminations, les cas contacts, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète dans la perspective du baccalauréat, encore une fois ?
Effectivement, il y a des absences. Il peut y avoir des absences d'élèves qui seraient malades, des absences de professeurs qui peuvent être malades. Évidemment, plus que d'habitude, en période normale, les professeurs sont absents, mais évidemment en proportion moins importante qu'actuellement. Donc, bien sûr, c'est un motif d'inquiétude, notamment dans les suivis des programmes et l'acquisition de connaissances et de compétences par les élèves. C'est aussi pour ça que dans les consignes qui vont être données aux professeurs, il y a ces consignes de mensuétude. Il s'agit de tenir compte absolument de la situation, tout en n'abaissant pas trop les exigences demandées dans les divers examens qui sont organisés.
Toute dernière question rapidement, c'était déjà le débat de l'an dernier, mais est-ce qu'il n'y a pas un réel problème de rupture d'égalité ? Alors l'accès au numérique, on en a déjà beaucoup parlé, mais tout simplement en fonction de l'environnement familial, puisque les élèves sont davantage livrés à eux-mêmes, du fait notamment qu'on va passer à 50% probablement en présentiel.
Oui, mais là, on est dans une quadrature du cercle. Il va de soi que si on demande pour des raisons sanitaires à ce que les élèves soient, entre guillemets, scolarisés chez eux, on va dire ça comme ça, pour une partie du temps, cela produit des inégalités dont l'avantage, c'est que la situation sanitaire est mieux gérée, ou alors on les met tous en classe pour tendre vers l'égalité, et à ce moment-là, on a des protestations qui mettent en évidence ou en avant les risques sanitaires. Donc, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la position que l'on adopte, elle produit des mécontentements.
On l'aura bien compris. Merci Pierre Mathiot, directeur, je le rappelle, de l'IEP de Lille et principal concepteur donc de cette nouvelle réforme du bac, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Thomas Larabie. Toujours en temps de crise sanitaire, comment gouverner le plus efficacement possible les hôpitaux. Cette fois-ci, les médecins continuent de répéter que l'administration devrait leur donner plus de pouvoir. Dans les faits, les réunions de crise sont constantes entre médecins et directeurs d'établissement, sauf que dans la loi, le gouvernement est lui en train de déroger à toutes les règles. Fin octobre, dans la législation qui prolonge l'état d'urgence sanitaire, les parlementaires ont notamment adopté un amendement qui fait l'unanimité contre lui. Le texte prévoit d'autoriser les directeurs à ne plus les consulter dans des domaines qu'ils estiment pourtant essentiels. Et c'est ainsi que 6 syndicats de médecins hospitaliers se retrouvent aujourd'hui à tirer la sonnette d'alarme. Alors cette perte de pouvoir des médecins ne date pas d'hier. En réalité, en revanche, Tara Schlegel, elle semble s'accentuer donc à la faveur de cette crise.
La petite phrase de Nicolas Sarkozy en 2008 est restée dans les mémoires. « Je ne veux qu'un patron et un seul à l'hôpital », ce qui en substance désignait le directeur. Douche froide pour les médecins qui, avant, partageaient la gouvernance. Leur parlement, entendait la commission médicale d'établissement, a perdu dans la loi Bachelot beaucoup de ses pouvoirs. Mais lors de la crise sanitaire, au printemps dernier, tout a changé, confie Sadek Belousif, chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Avicenne.
Lors de la première vague, ça n'était pas une question de pouvoir, c'était une question de devoir. Et c'est vrai que les pesanteurs administratives et hiérarchiques avaient volé en éclats, parce qu'on était dans une situation de quasi-union sacrée, et tout le monde avait fait front ensemble.
Or, quelle n'a pas été la surprise de ce professeur, qui préside aussi le SNAM-HP, le plus ancien syndicat des médecins hospitaliers de France, quand il a découvert, comme ses collègues, un amendement voté il y a quelques jours. L'exposé des motifs explique que la gestion de l'épidémie rend complexe le respect du formalisme des réunions, des organes exécutifs et des instances consultatives à l'hôpital. Autrement dit, en période de crise, le directeur pourrait décider seul et d'orientation cruciale.
Les dérogations qui sont applicables portent par exemple sur l'élaboration du plan global de financement pluriannuel, l'élaboration de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Et donc nous, ce que l'on dit, c'est qu'on ne peut pas prendre des décisions potentiellement si fortes, puisque là on est dans le plan global de financement pluriannuel, sans l'avis des soignants.
Le syndicat du professeur Belousif et 5 autres appellent donc l'État à renoncer à cette réforme. Surtout en temps de crise, disent-ils, il faut laisser aux médecins les moyens d'organiser les soins.
Frapper tous azimuts, tel semble être désormais le mot d'ordre du président Emmanuel Macron dans sa bataille contre le terrorisme. Dans un contexte marqué par le retour des attentats perpétrés en France, 3 en l'espace d'un mois, et quand bien même ces attaques font partie d'une guerre qui, elle, ne s'arrête pas, loin s'en faut, aux frontières de l'Hexagone, le chef de l'État a décidé de multiplier les initiatives pour expulser du territoire les étrangers en situation irrégulière, fichés pour radicalisation. Hier, Emmanuel Macron a non seulement annoncé le doublement des forces des déployés aux frontières, mais le locataire de l'Élysée est allé plus loin encore en se disant favorable à une refondation en profondeur des règles régissant l'espace Schengen de libre circulation en Europe. Ou quand pourra sécher le terreau de l'islam radical sur la scène intérieure, eh bien, le président veut à présent élargir son action pour combattre le djihadisme sur la scène internationale. C'est ainsi d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui entamé ce matin une tournée à Rome tout d'abord. Il est par ailleurs attendu cet après-midi en Tunisie, demain en Algérie, après un détour par Malte. Bruce de Galzin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Gérald Darmanin a donc été reçu ce matin par son homologue de l'Intérieur pour y évoquer la réforme du système européen d'asile et d'immigration.
Ah oui, est-ce qu'il y a de plus concret ? Eh bien, c'est la mise en place d'une brigade mixte à la frontière entre les deux pays, l'Italie et la France, des forces de l'ordre françaises et italiennes qui vont donc patrouiller ensemble. Le bureau de cette police aux frontières sera installé à Bardonecchia, côté italien. Et cette brigade est inédite, hein. C'est une première, un projet qui n'est pas né hier avec l'attentat de Nice, mais cet été. Et c'est bien aujourd'hui qu'il est acté par les deux ministres. La phase expérimentale de 6 mois va démarrer très vite. La coopération est entière entre les deux pays. Pas question une seconde pour Gérald Darmanin de voir une responsabilité italienne dans l'attentat de Nice. En revanche, il faut bel et bien renforcer les contrôles aux frontières. Ce sera donc fait. Il faut aussi refonder Schengen. Et là encore, France et Italie sont sur la même longueur d'onde. Le système est dépassé, selon le ministre français, car à l'époque, il n'y avait pas ces flux migratoires et cette lutte contre le terrorisme. Il faut garder la liberté de circulation pour les Européens. Mais le ministre plaide pour un eurogroupe des ministres de l'Intérieur afin de mieux coopérer et surveiller les frontières. Il faut que les ministres de l'Intérieur soient aussi forts que les ministres des Finances, selon lui. En tout cas, la France comme l'Italie redisent à l'unisson que le problème de la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme ne peuvent être que résolus ensemble et pas seuls.
Merci Bruce de Galzin en direct de Rome. Alors on l'a compris, l'objectif de la part des autorités françaises est très clair, faire repartir la machine des expulsions. Et même si Emmanuel Macron se défend d'établir un quelconque lien entre immigration et menaces terroristes, d'autres en revanche se sont aussitôt empressés de le faire à sa place, au premier rang desquels la chef du Rassemblement National, Marine Le Pen, mais aussi à sa manière le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Dès lors, jusqu'où l'activisme d'Emmanuel Macron dans la lutte contre le terrorisme risque-t-il d'irriguer la scène politique ? Élément de réponse avec Laura Dulieu.
Si Emmanuel Macron assure ne pas confondre immigration et terrorisme, le président français durcit quand même son discours. Hier, lors de sa visite au Pertus à la frontière franco-espagnole, le chef de l'État a clairement affirmé que les réseaux terroristes étaient de plus en plus liés à l'immigration clandestine. Et après la multiplication des attaques terroristes ces dernières semaines, pas question de laisser terrain libre à la droite et l'extrême droite. Emmanuel Macron met son gouvernement en ordre de marche contre la menace terroriste, avec en première ligne Gérald Darmanin, on l'a entendu en visite aujourd'hui en Italie, puis ce soir en Tunisie, dimanche en Algérie. Alors la visite en Tunisie était prévue de longue date, avant l'attentat de Nice, dont l'auteur présumé est tunisien, mais elle tombe à pic. Le ministre de l'Intérieur français doit notamment évoquer avec les autorités tunisiennes le sort d'une vingtaine de Tunisiens présents sur le sol français, en situation irrégulière et soupçonnés de radicalisation. Même chose pour sa visite en Algérie dimanche. Plus globalement, cela fait plusieurs semaines que Gérald Darmanin évoque la situation de 231 ressortissants étrangers en situation irrégulière et fichés pour radicalisation. Il souhaite les expulser. 70% d'entre eux sont originaires du Maghreb et de la Russie où le ministre doit aussi se rendre prochainement. En fait, l'idée c'est de relancer la machine des expulsions fortement ralentie avec la pandémie de Covid-19 et en parallèle de ne pas laisser le sujet de l'immigration à l'extrême droite, là où Marine Le Pen réclame la suspension de l'espace Schengen. Emmanuel Macron s'est dit favorable à une refonte des règles de libre circulation dans l'Union européenne. Il en fera la proposition lors du Conseil européen de décembre prochain.
On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi, marqué par une dégradation nuageuse par le sud-ouest. Partout ailleurs, le temps s'annonce ensoleillé. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Annabelle Grelier pour le prochain journal de la rédaction.